Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Une minute de silence observée actuellement dans tous les centres des impôts de France. Hommage à cet agent tué lors d'un contrôle fiscal lundi dans le Pas-de-Calais. Un acte probablement prémédité d'après les premiers éléments de l'enquête. À suivre également EDF qui attend son nouveau patron et Enedis qui se prépare aux coupures de courant à partir du mois de janvier. Le délestage pourrait devenir une réalité, mais à qui on coupe, quand, combien de temps? On vous dira tout à 12h40. Une grève et des heurts dans la plus grande usine d'iPhone du monde, c'est en Chine. C'est celle qui avait été confinée il y a 3 semaines déjà à cause du Covid. Le foot et 12,5 millions de Français ont assisté à la victoire des Bleus hier soir 4-1 face à l'Australie pour leur premier match du Mondial. Vous entendrez Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, réagir à cette première victoire juste après le journal.
12 millions sur TF1, plus ceux qui écoutaient RTL et plus ceux qui étaient devant leur poste de Bein. RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous.
Et aujourd'hui, on part en Haute-Saône face aux déserts médicaux. Une commune n'hésite pas à investir 400 000 euros pour attirer des dentistes. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Nez bouché, gorge qui gratte, mais comment éviter ces petits maux de l'automne et comment les soigner si on est déjà contaminé? Consultation médicale offerte dans un gros quart d'heure. Juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture, nous sommes mercredi. On parlera donc cinéma avec le film Saint-Omer. La question du jour sur notre site rtl.fr, craignez-vous, vous, des coupures de courant cet hiver?
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h. Et si je voulais apporter une note positive, je dirais que c'est l'anniversaire de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir, petite Marie. C'est également l'anniversaire de Jean-Pierre Foucault.
Eh ben, on leur souhaite un bien bel anniversaire. Merci Pascal de nous rappeler à nos obligations. La météo, c'est avec vous Peggy Broche aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Un temps bien arrosé avec du vent.
Bien, météo complète à la fin du journal. Merci.
Bon anniversaire
Peggy.
Aussi.
RTL Midi.
L'émotion et le recueillement à Bercy, au ministère de l'économie et dans tous les centres des impôts de France où une minute de silence vient d'être observée en hommage à l'agent du fisc tué lundi lors d'un contrôle. C'était à Bullecourt, dans le Pas-de-Calais. Et l'émotion était évidemment particulièrement vive au centre des impôts d'Arras où travaillait la victime Julie Brault.
Et oui, devant ce grand bâtiment en briques, les grilles en ferraille sont fermées ce midi. À l'intérieur, les collègues de Ludovic, 43 ans, se recueillent à huis clos. Un hommage intimiste en l'honneur d'un fonctionnaire qu'ils décrivaient tous comme discret, professionnel et très à l'écoute. Cet hommage, c'est aussi une marque de soutien envers sa collègue qu'il a vu mourir de plusieurs coups de couteau alors qu'ils effectuaient tous les deux un contrôle fiscal hier. Et si le temps est actuellement au recueillement, les agents fiscaux d'Arras demandent ensuite des réponses. Jamais mais nous ne devrions risquer notre vie pour notre travail, appelle un de leurs représentants.
Julie Brault à Arras pour RTL. Et on rappelle que le brocanteur s'est suicidé après avoir tué l'inspecteur des impôts. Un acte donc probablement prémédité d'après les premiers éléments de l'enquête.
Un an de prison avec sursis pour tous les soignants mis en cause dans la mort du petit Timéo et 50 000 euros d'amende pour le CHU.
Ce sont les réquisitions du procureur dans cette affaire jugée à Nancy 7 ans après la mort du petit garçon. Timéo, donc 4 ans, avait succombé à une surdose de médicaments après avoir été admis pour des douleurs aux jambes. On y revient dans le journal de 12h30. Et puis sachez que les passages aux urgences et les hospitalisations pour bronchiolite ont rebondi à des niveaux très élevés selon les autorités sanitaires. Près de 7000 enfants de moins de 2 ans sont passés aux urgences pour une bronchiolite la semaine dernière. C'est 24% de plus que la semaine précédente.
Direction la Chine à présent, confinée au début du mois après l'apparition de cas de Covid, la plus grande usine d'iPhone au monde est désormais secouée par des violences.
De grandes manifestations ayant éclaté dans le site industriel propriété du sous-traitant taïwan et Foxconn. Plusieurs milliers d'ouvriers ont décidé de faire grève. Ils ont cessé le travail pour dénoncer leurs conditions de travail, justement, mais aussi des mesures anti-Covid prises sur le site. Hugo Aubry, la tension était telle que la police anti-émeute a dû être déployée.
Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des milliers d'ouvriers affronter la police et repousser les assauts des forces anti-émeutes. Image rare en Chine de manifestations. Cette usine de Zhangzhou emploie en temps normal plus de 200 000 ouvriers. C'est la plus grande usine d'iPhone du monde. Ces ouvriers se plaignent des faibles salaires et des conditions de travail. En raison de la pandémie de Covid, des mesures très contraignantes ont été mises en place et les ouvriers travaillent, mangent et dorment sur place dans une bulle en circuit fermé. Fin octobre, plusieurs milliers d'entre eux s'étaient échappés de l'usine pour fuir ces contraintes sanitaires. Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple qui gère le site, avait alors promis des primes importantes pour recruter de nouveaux ouvriers, mais en vain. La production d'iPhone pourrait chuter de 30% cette année, d'où des cadences infernales dans l'usine. Des cadres du Parti communiste local ont même été réquisitionnés pour garnir les lignes de production.
Hugo Aubry à Pékin pour RTL. En Ukraine, un nouveau-né est mort la nuit dernière, tué par la frappe russe sur une maternité dans la région de Zaporijjia. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'essayer d'accomplir par la terreur et le meurtre ce qu'elle n'a pas pu accomplir en 9 mois d'invasion.
RTL Midi.
Le foot et les Bleus qui ont rassuré hier soir pour leur entrée dans le mondial.
Alors, pas vraiment pendant le premier quart d'heure. Hein. Mené, puis une nouvelle fois frappé par une blessure, celle de Lucas Hernandez. Forfait d'ailleurs pour le reste de la compétition. Mais ensuite, les hommes de Didier Deschamps ont renversé le match. À l'arrivée, victoire 4-1. Un succès devant 12,5 millions de téléspectateurs sur TF1. On ne peut pas parler d'un boycott massif, hein, Isabelle Moribosque.
Non, on ne peut pas dire. Comment dire, en revanche, il y a les principes et il y a la réalité, voire le principe de réalité. Les principes, à en croire les sondages, voulaient qu'il y aurait un boycott pur et dur avec plus de la moitié des téléspectateurs auditeurs absents. La réalité, on l'a vu hier soir, 12 530 000 Français regardaient France-Australie, un téléspectateur sur deux quasiment, la meilleure audience globale depuis juin 2021. Cela dit, c'est le détail qui est encore plus intéressant, parce que si on décortique, on constate que 53% des femmes disponibles, qui, elles, encore plus, avaient dit qu'elles ne regarderaient pas, et ben, étaient hier soir sur la une, 69% des 15-49 ans et 73% des 4-14 ans, auquel s'ajoutera donc le score de beIN Sport.
Maintenant, 74%
des 4-14 ans. 4-14 ans, absolument. Maintenant, si vous en voulez plus des chiffres, on peut revenir 4 ans en arrière. La première rencontre des Bleus, déjà face à l'Australie, avait été suivie par 12 590 000 fanas. Donc à la louche, la même chose, c'est un samedi. Quant au France-Honduras en juin 2014, il avait fanatisé 15 800 000 personnes. Mais là, franchement, il n'était pas question de boycott. Donc justement, conclusion, histoire d'aller droit au but, on peut dire que le carton rouge annoncé s'est déjà transformé en carton plein.
Pour être sûr que j'ai bien compris, 74%, 73% des enfants entre 4 et 14 ans regardaient hier
absolument
soir le match.
Absolument.
Vous
69% des hommes de 25-49 ans et 53% des femmes. Qui étaient encore plus de 33% devant le magazine de Brognard ensuite. Hein.
Oui, mais ils ne se couchent pas ces enfants.
Ben non, ils étaient 1,6 million devant le Shabbat, donc il y en a qui sont partis se coucher avant le late show.
C'était mercredi aujourd'hui, me dit Arnaud Mulpa. Ceci explique sans doute cela.
Et puis le match commençait à 20h. Isabelle Morini-Bosque, merci.
Le journal, 19h15.
Exactement. On sera avec le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, dans quelques minutes. Un document RTL que Philippe Sanfourche a pu recueillir pour nous ce matin au Qatar. Côté terrain, les matchs du jour avec actuellement le Maroc face à la Croatie. On joue depuis 49 minutes, score toujours nul et vierge. Et puis cet après-midi, à 14h, l'Allemagne affronte le Japon. À 17h, l'Espagne. Il sera face au Costa Rica. Et puis ce soir, les Diables Rouges, les Belges donc, affrontent le Canada. Ce sera à 20h. La météo, on vous retrouve, Peggy Broche, vous qui nous promettez un après-midi pluvieux.
Mais oui, c'est vrai, parce qu'on a une perturbation qui traverse le pays. Céline, elle est actuellement sur les régions centrales et on va la retrouver cet après-midi. Elle va se décaler vers l'est, entre les Alpes, les Ardennes, la Lorraine. Sur l'Alsace et les frontières de l'Est, elle va arriver dans la soirée avec de bonnes pluies, du vent et la Méditerranée reste à l'écart avec un temps toujours sec, mais du vent également. Et puis sur l'arrière, sur toute la moitié ouest du pays, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne. Alternance de nuages, d'éclaircies, quelques gouttes encore, pas mal de vent. Des averses plus marquées dans le sud-ouest, sur les bords de Manche et entre la Bretagne et l'Île-de-France. On devrait retrouver un temps plus calme et moins humide. Les températures, elles sont en hausse et au-dessus des normales bien souvent. De 9 à Metz à 18 à Perpignan, 17 à Nice, 16 à Toulouse, 14 à Rennes, 13 à Brest et Paris, 11 à Reims et 10 à Lille.
Merci Peggy.
RTL Midi. Jour chez vous.
Et c'est l'heure traditionnelle de notre voyage dans France. RTL Midi, un jour chez vous, chaque jour donc l'info plus près de vous.
Et aujourd'hui, direction la Haute-Saône. Bonjour Samuel Goldschmidt.
Bonjour.
La Haute-Saône, un des départements de France qui compte le moins de chirurgiens dentistes. Alors à Arc-les-Grès, le maire a décidé de prendre les choses en main pour tenter de remédier à une situation de plus en plus critique.
Et oui, il suffit de tendre le micro aux premiers habitants qui passent, hein, Arc-les-Grecs. Comment faites-vous pour aller chez le dentiste? Eh bien, la réponse est loin d'être simple.
Bah oui, j'en avais un, mais il est parti en retraite. Eh ben, faut qu'on cherche sur Internet pour trouver des dentistes qui acceptent de pouvoir prendre d'autres clients. Même problème que partout, oui.
Maintenant, j'ai plus de dentiste. Donc maintenant, quand j'ai besoin, j'utilise Doctolib.
Mais vous devez aller jusqu'où?
Dijon en général, 42 km. Besançon aussi, bah on n'a pas le choix surtout.
Dijon, c'est même 49 km, Besançon et Vesoul, 57, et c'est pas d'autoroute. Et il faut trouver des praticiens qui ont de la place de vous prendre rendez-vous.
Et comment la mairie espère-t-elle renverser la situation?
Alors, en investissant beaucoup pour transformer le rez-de-chaussée d'un grand bâtiment qu'elle possède dans l'artère principale, et en s'associant avec la Mutualité française qui devra recruter les dentistes, le maire Xavier Coquibus.
Alors comment ça va marcher? Nous sommes les propriétaires des locaux, nous les rénovons et finançons cette rénovation, et ensuite le prestataire va les embaucher et piloter la prestation auprès des patients. La Mutualité va devoir s'acquitter bien sûr d'un loyer, et la Mutualité a cette particularité-là de gérer ça en Haute-Saône, donc ils gèrent 9, je crois, dentistes sur la ville de Vesoul, et puis ils en ont aussi à Luxeuil.
Donc ils devront vous en trouver combien?
Ben là, en fait, on équipe un cabinet pour 3.
Alors, 400 000 euros d'investissement, c'est beaucoup pour un village de 2500 habitants. Les travaux battent leur plein. Si tout va bien, les locaux seront prêts courant 2023. Et dans toutes ces affaires de déserts médicaux, on le rappelle, hein, les professionnels qui s'installent n'auront même pas à s'inquiéter d'avoir du travail. Les patients vont affluer sans même un claquement de doigts. Arc-les-Grès s'est collé à Grès avec les villages alentours. C'est un bassin de 20 000 habitants qui attend désespérément des dentistes, entre autres.
Merci beaucoup Samuel Goldschmidt, donc en Haute-Saône pour RTL.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On va parler de l'équipe de France, rendre hommage à Olivier Giroud dans une seconde et s'interroger aussi sur l'arrière-gauche, parce que nous n'avons plus qu'un arrière-gauche qui s'appelle Hernandez. Et s'il est blessé, il n'y a plus d'arrière-gauche en équipe de France. Attention, comme disait Aimé Jacquet. 12h11, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Et c'est terminé, c'est terminé. L'équipe de France s'est fait peur. L'équipe de France a été menée dans ce premier match de Coupe du Monde. Mais l'équipe de France a eu du cœur. L'équipe de France s'est réorganisée. 4-1.
Premier match et première victoire donc pour les Bleus hier soir face à l'Australie. Un doublé de Giroud, un Kylian Mbappé au rendez-vous, mais une victoire entachée par la blessure de Lucas Hernandez. Le latéral s'est rompu le ligament croisé en début de match. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
On vient de vous entendre, vous avez vibré avec nous hier soir devant ce match. Retour aux affaires sérieuses ce matin, c'est un document RTL. Vous avez pu rencontrer le patron de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët. Président heureux, on l'imagine ce matin.
Oui, soulagé, hein, déjà un peu comme les joueurs, comme le staff, après ces semaines perturbées, cette avalanche de blessures, encore celle de Lucas Hernandez, vous le disiez hier. Donc il est heureux de la victoire, Noël Le Graët, bien entendu. Il est heureux aussi des succès d'audience que vous avez commenté il y a quelques minutes, de ce ressenti finalement positif en France, puisque le président de la Fédération, vous le savez, a une double casquette. Il est aussi membre du conseil de la FIFA, et donc c'est un peu une double victoire pour lui hier soir.
Je crois qu'il y a eu une campagne qui était excessive, à mon avis, mais vous savez, on aime bien en France, c'est un peu excessif sur beaucoup de dossiers. Le côté politique m'a un peu surpris par moment. Je crois que ce pays, bon, il est ce qu'il est. Moi, je regarde le côté football, politique de faire leur métier. Je sais que le Qatar et la France signent quand même des contrats relativement élevés, que les deux gouvernements s'entendent pas si mal. Et nous, on n'a pas à se plaindre du PSG, de Nasser et de ses équipes. Donc, je crois effectivement que critique d'avant était excessive. Bon, la preuve, le record est battu hier soir, les bistrots, vous savez, où les cafés étaient pleins partout. J'ai plein de photos de jeunes qui envoient des photos, ils sont une dizaine, une douzaine, ou quatre, ou cinq. Non, l'équipe de France, de toute façon, est au-dessus du lot.
Un blessé de plus, on l'a dit, avec le forfait de Lucas Hernandez, et ce n'est pas rien, Philippe, parce que je le disais, c'est le dernier arrière-gauche. Or, il reste 6 matchs possibles pour l'équipe de France. Donc, il va falloir qu'il tienne, qu'il ne se blesse pas, parce que je ne sais pas ce qui se passe si Lucas Hernandez n'est pas disponible. Théo Hernandez, puisque c'est Lucas, effectivement, qui a été blessé hier. Alors, on sait, Philippe, que l'objectif fixé à Didier Deschamps et à ses joueurs, c'était la demi-finale. Est-ce qu'il est revu à la baisse avec la cascade de deux forfaits?
Alors, vous savez, Noël Le Graët, c'est pas trop un homme qui a tendance à revoir ses objectifs à la baisse. Lui, ce qu'il a constaté hier, comme nous tous, c'est que bah, les jeunes sur lesquels pesait beaucoup de pression, on avait des doutes sur leur capacité à porter ce maillot très lourd de l'équipe de France. Tout s'est bien passé. Il m'a parlé en bien de joueurs comme Adrien Rabiot, vous savez, qui a eu une carrière compliquée, une histoire compliquée avec l'équipe de France il y a 4 ans au Mondial, où il avait préféré se mettre en retrait alors qu'il était sur la liste des suppléants. Voilà, tous ces joueurs qui finalement ont pris une dimension aujourd'hui importante et qui tiennent leurs engagements, les objectifs, lui permettent à lui de fixer à Didier Deschamps toujours le même objectif, c'est-à-dire à minima les demi-finales.
Oui, bien sûr. Vous savez, quand vous regardez les joueurs, ils sont 25. Hier, vous n'avez pas vu une grosse différence. Les jeunes se sont imposés très rapidement. On a un effectif de qualité, mais il faut faire attention. Le premier match donne quand même un peu une image importante. Ce que je leur avais dit quand je les ai réunis, c'est un petit peu... Si on rate le premier match, c'est souvent compliqué. Et là, on a bien réussi. Bon, ceci dit, est-ce qu'on a la meilleure équipe du monde? Non, j'en sais rien. On peut pas, après un seul match, se dire, ça y est, nous voilà à nouveau champion du monde. On sait qu'on a à chaque poste des hommes de qualité.
Et comment il vit ce mondial, Noël Le Graët? Philippe, vous lui avez posé la question, j'imagine, parce qu'on n'oublie pas qu'il est malgré tout englué dans les affaires, notamment ses accusations d'agression sexuelle qui le visent.
Oui, il est englué dans beaucoup d'affaires visées de toutes parts. Hein, Noël Le Graët, on l'a dit, comme il est membre de la FIFA, tout ce qui touche aux affaires du Qatar, les affaires de brassard du capitaine, il a dû les gérer. Il y a également les affaires de la fédération. Hein, vous savez qu'il y a un audit qui est toujours en cours sur des soupçons de relations toxiques, de management à l'intérieur de la fédération. Il y a tout ça. Et puis, il y a évidemment cette affaire qui a marqué tout le monde, ces accusations de SMS à caractère sexuel au sein de la fédération. Écoutez-le, Noël Le Graët, il nie fermement et il ne nie pas en revanche qu'il a beaucoup souffert de ces accusations.
Je l'ai dit dès le premier jour. J'aurais été d'abord stupide. C'est pas vraiment mon truc hein, de manipuler toute la technique. Je l'ai pas fait. Je l'ai dit dès le premier jour parce que c'est assez bizarre parce que ça a été. Je pensais qu'il y a que comment vous dire ce journal qui aurait écrit puis c'est parti partout. Et ça m'a alors assez déstabilisé. Et j'étais étonné de voir les titres prendre mot pour mot ce qu'il y a dans ce journal. On peut d'abord avoir une carapace. On a aussi une famille, on a des amis, on a... Puis pour soi, égoïstement, c'est tellement injuste que je regrette qu'une partie de la presse s'est reprise sans recherche. Et je me dis aujourd'hui, ça va faire 3 mois, ça va 2 mois et demi. Mais ils sont où les messages? Franchement, je les verrai, je voudrais bien les voir. Mon portable est à la disposition de la police. Aujourd'hui, on peut tracer. Donc ceux qui veulent bien regarder le front, mais je m'en occuperai à mon retour, dès qu'on aura gagné la Coupe du Monde.
Noël Le Graët, donc, qui répond aux accusations et qui nous prédit une nouvelle étoile sur le maillot des Bleus dans quelques semaines. L'entretien sera évidemment à retrouver sur notre site internet rtl.fr.
Et merci à Philippe Sainfourche, bien évidemment, qu'on va retrouver durant toute cette Coupe du Monde. Dans un instant, RTL Midi, votre vie, on sera avec un médecin pour parler des petits bobos de l'hiver, puisque Peggy Roche ne fait que nous annoncer, Peggy Roche, que
avec
nous
un
annoncer
B, oui.
Des mauvaises nouvelles. Voilà, c'est de votre faute.
Non, mais vous m'aviez dit qu'on avait besoin d'eau, on a de l'eau.
À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, oui, car c'est l'info aussi qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Eh oui, atchoum. Car l'automne, bientôt...
C'est un virus, hein, le rhume.
Oui.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'arrive pas à le soigner. Un rhume, tu prends quelque chose ces 8 jours, tu prends rien ces 8 jours.
Ah ben, on va vérifier ça si ça vous fait rien avec un vrai médecin, Pascal. Bonjour Margot Bayard.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente des médecins généralistes de France. Bon, c'est vrai que ça fait partie des mots du moment, MAUX évidemment, les rhumes. C'est vrai ce que dit Pascal, qu'on se soigne ou pas, ça ne change rien?
Tout à fait d'accord.
Mais je veux dire, ça va plus loin. Je suis surpris qu'on n'arrive pas à soigner un rhume ou à trouver un médicament, alors qu'on trouve des choses partout, sur quelque chose qui me paraît aussi simple qu'un rhume. C'est l'enfer, en fait, un rhume.
C'est l'enfer, oui, c'est sûr, c'est un inconfort qui fait partie de la vie. Après, il y a quand même des petites choses pour soulager, hein, notamment les lavages de nez, hein, qui avec des produits du sérum physiologique notamment, qui permet de garder un confort et puis de soulager. Après, bon, bien sûr, des traitements pour calmer les phénomènes des maux de tête, les choses comme ça. Mmh. Après, dire que c'est un enfer...
Donc vous avez raison, je retire, vous avez parfaitement raison. En même temps que je disais ça, là, je pense à ceux qui souffrent vraiment de vraies maladies et vous avez parfaitement raison.
Vous le disiez aussi, Margot Bayard, il y a un certain inconfort qui est associé au rhume. Alors, si on ne peut pas le soigner, s'il faut le subir une fois qu'il est installé, comment on peut l'éviter, si c'est possible ?
Je pense que... On a eu pendant 2 ans une pandémie où on a été amené à utiliser des gestes barrières. Je crois qu'il faut prendre pour toutes ces pathologies ORL qui se transmettent essentiellement par les postillons lorsqu'on éternue, lorsqu'on se serre la main, il faut reprendre les bonnes habitudes, hein, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude pour éviter de se mettre des postillons dans la main et les mettre sur la poignée de porte et contaminer celui qui arrive juste après. Respecter les distances et ce sera d'autant plus valable pour les populations fragiles, pour éviter de se contaminer. Ne pas hésiter à remettre les masques. C'est une habitude qu'on n'avait pas du tout en France par rapport à d'autres pays. Et je crois que dans les endroits qui sont confinés, par exemple, ce matin, j'étais dans le RER qui était bondé, j'ai mis un masque. Je crois que ces endroits-là méritent quand même toute notre attention, surtout pour les personnes qui sont fragiles, mais pour protéger les autres et se protéger. Et puis aussi, quand on est très nombreux, pas hésiter aussi à garder l'aération des locaux.
Il y a d'autres maladies comme ça auxquelles on a du mal à échapper dès que l'automne arrive.
Après, c'est tout le problème des complications. Souvent, ça commence par un rhume et après, donc, ça tourne en bronchite. Après, ça peut se manifester plus par des laryngites. Ce sont les maux de saison, on va dire. Après, c'est effectivement la question de la prévention est quand même majeure. Et je crois surtout, actuellement, on est soumis à une épidémie de bronchiolite. Donc, je crois que notre rôle aussi, quand on n'a pas de problème de santé, c'est de protéger les populations les plus vulnérables. Donc, c'est d'éviter d'aller voir les nourrissons, les petits nourrissons qui viennent de naître de moins de 6 mois quand on a le moindre rhume, mais en tout cas, pas éviter de leur faire des bisous aussi. Je sais bien qu'on en a envie, et les personnes âgées, c'est pareil. On ne peut pas vivre non plus de façon aseptique dans une bulle sans virus. Ça fait partie de la vie et c'est valable pour tous les êtres humains. Bon. Et tous les êtres vivants aussi, je dirais.
Mais on a bien compris, si on est enrhumé, on prend notre mal en patience et on attend que ça passe.
Mais oui, c'est ça qui est le plus terrible et c'est toujours 8 jours, hélas. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Margot Bayard. Dans une seconde, RTL Midi, votre vie. L'info revient dans quelques instants avec le journal de 12h30. On va reparler football et rendre hommage à Olivier Giroud qui a 36 ans. 36 ans. Il a marqué hier combien de buts ?
2.
2. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous et rebonjour à tous si vous étiez déjà avec nous depuis 12h et on salue ceux qui viennent d'arriver. Il est 12h31.
RTL Midi, le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et c'est donc l'heure de votre grande édition de la mi-journée, Céline.
Des violences physiques et morales depuis plusieurs années. La femme d'Adrien Quatennens s'assure dans un communiqué que les violences qu'elle a dénoncées n'étaient pas exceptionnelles. Elle réfute tout contexte d'agressivité mutuelle, ce qui pourrait compromettre le retour en politique du député insoumis du Nord. À suivre également EDF qui attend son nouveau patron et Enedis qui se prépare aux coupures de courant à partir du mois de janvier. Le délestage pourrait devenir une réalité, mais à qui on coupe, quand, combien de temps, on vous dira tout après le journal. Dans cette édition également, une maternité bombardée en Ukraine, un nouveau-né est décédé la nuit dernière.
la victoire des Bleus, évidemment, mais une victoire ternie par la blessure de Lucas Hernandez, forfait pour le reste de la compétition. On vous expliquera aussi qu'il est impossible de virer un salarié seulement parce qu'il n'est pas assez fun et qu'il ne vient pas participer au pot d'entreprise. Bah oui, Pascal. Bah,
c'est normal quand même.
Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT Midi, on va parler...
Vous n'êtes pas obligé d'être
fun. Non, c'est pas obligatoire. Je vous le disais, juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT à midi, un film qui n'est pas fun là non plus, mais qui fait beaucoup parler, c'est Saint-Omer en salle aujourd'hui. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr, craignez-vous justement des coupures de courant cet hiver?
On en parlera de tous ces sujets à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. 30-10, et n'oubliez pas notre rendez-vous avec Christian Olivier vers 13h03, 13h04. Nous affronterons gentiment, bien sûr, aujourd'hui sur Olivier Giroud.
La météo, c'est avec vous, Peggy Broche, cet après-midi. Qu'est-ce qui nous attend? Toujours
les
perturbé
pluies. Exactement, les pluies se décalent vers l'est.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h, RTL Midi.
Alors que les réunions pour évoquer le retour politique d'Adrien Quatennens avaient commencé chez les Insoumis, voilà de nouveaux éléments qui pourraient bien le compromettre, ce retour. Son épouse dénonce en effet à nos confrères de l'agence France Presse des violences physiques et morales qui duraient, selon elle, depuis plusieurs années, Anne Le Hénaff.
Oui, en fait, c'est une réponse à une déclaration du député LFI, de son avocate plus précisément, qui avait parlé il y a quelques semaines d'une affaire dans un contexte d'agressivité mutuelle pendant le divorce. Céline Quatennens répond donc aujourd'hui dans un communiqué également. Elle dénonce auprès de l'AFP des colères, des crises, des violences physiques et morales de sa part. Et tout cela dure depuis plusieurs années, selon elle, et elle réfute cette expression de contexte d'agressivité mutuelle. Cela fait plusieurs années que je subis ces colères et ces crises. J'ai voulu le divorce à 3 reprises. À chaque fois, sous la pression, je suis revenue en arrière, assure Céline Quatennens. Sachez que le couple est par ailleurs convoqué le 13 décembre prochain au tribunal de Lille, dans une audience de plaidé coupable, où le procureur proposera une peine à Adrien Quatennens, qu'il acceptera ou pas.
Merci beaucoup Anne Le Hénaff du service police-justice de RTL.
Et vous pourrez bien sûr réagir sur cette information entre 13h et 14h30. Une succession d'erreurs, de négligences au tribunal correctionnel de Nancy. Le procureur a insisté sur la responsabilité des soignants dans la mort du petit Timéo.
Ce garçon de 4 ans décédé en 2015, victime d'une surdose de médicaments. Samuel Goldschmidt, c'est un réquisitoire implacable qui a été dressé ce matin pour le personnel hospitalier.
Oui, le procureur a détaillé les cas des 3 soignants à la barre depuis hier. Le docteur Fischer, qui a prescrit la colchicine, s'est contenté de le faire oralement et de manière peu claire. Tous les participants à la réunion de ce jour-là n'ont pas entendu la même chose sur la dose préconisée. Elle aurait dû écrire sa prescription comme elle en avait la possibilité, alors que le cas était complexe et que les soignants de l'enfant étaient majoritairement des internes en premier semestre d'internat. Le docteur Breton, assistante chef de clinique qui gérait 3 services sans responsable titulaire, elle avait soutenu sa thèse, elle était médecin et donc responsable hiérarchique des jeunes internes. Elle s'est contentée d'un hochement de tête à l'énoncé de la prescription, alors que c'était un médicament qu'elle ne connaissait pas et qu'elle n'avait jamais utilisé. L'infirmière qui a broyé les 8 comprimés de colchicine dans un verre d'eau pour les donner à Timéo, tous les voyants étaient au rouge. Elle aurait dû vérifier. Elle n'est pas une simple exécutante au sens du code de la santé publique. Le procureur demande donc 1 an de prison avec sursis pour les 3 soignants et 50 000 euros d'amende pour le CHU dont la mauvaise organisation a permis ce drame. Ce sont maintenant les avocats de la défense qui parlent.
Samuel Goldschmidt pour RTL. Une minute de silence observée à midi dans tous les centres des impôts de France et à Bercy, au ministère de l'économie. Hommage à l'agent du fisc tué lundi lors d'un contrôle chez un brocanteur dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron, lui, est attendu au salon des maires cet après-midi. Au salon, pas au congrès. Une déambulation donc, mais pas de discours devant tous les élus cette année.
Peut-être a-t-il peur d'être sifflé. Il s'appelle Luc Raymond et il s'apprête à diriger l'un des monuments industriels français, l'EDF.
Sa nomination sera entérinée en Conseil des ministres aujourd'hui. L'ancien de Schneider Electric va donc devoir gérer, entre autres choses, Arnaud Touche, le très sensible dossier du nucléaire, alors que près de la moitié de nos réacteurs sont toujours à l'arrêt.
Oui, avec un seul objectif, tenir le calendrier du redémarrage des réacteurs pour éviter les coupures de courant cet hiver. Il devra également relancer un programme nucléaire voulu par le gouvernement, avec notamment la construction de 6 nouveaux réacteurs et d'autres plus petits. C'est lui, normalement, qui fera l'inauguration de l'EPR de Flamanville, prévu pour pour la fin de l'année prochaine. Fort heureusement pour lui, le nucléaire est un peu moins critiqué ces derniers temps, vu la crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine et les besoins d'électricité ces prochains mois. Côté finance, il va devoir également gérer la dette colossale d'EDF qui pourrait atteindre 60 milliards d'euros à la fin de l'année et dialoguer aussi avec les syndicats qui l'attendent de pied ferme et ne veulent pas entendre parler de la réforme des retraites. Enfin, Luc Rémont, le nouveau PDG, va connaître la renationalisation d'EDF avec l'État actionnaire à 100%. Il va diriger donc une entreprise publique avec de puissants syndicats, des autorités de régulation et un interlocuteur presque unique, l'État, avec qui il va devoir apprendre à composer.
Arnaud Touche, justement, avec des réacteurs nucléaires en partie sur le flanc, comment Enedis et RTE préparent à d'éventuelles coupures de courant, et ça dès le mois de janvier? Qui est concerné? Combien de temps? Sera-t-on prévenu à l'avance? On vous dit tout juste après le journal.
RTL Midi. Les images de Mariupol avaient marqué au début du conflit. En Ukraine, une nouvelle fois, une maternité a été visée par une frappe russe.
Cette fois dans la région de Zaporijjia. Sophie Jousselin, cette frappe a d'ailleurs provoqué la mort d'un nouveau-né.
Oui, le bébé n'avait que 2 jours. Sa maman, elle, a pu être sauvée, tout comme le médecin qui était avec eux au moment de l'attaque. Dans ce petit hôpital, un immeuble de 2 étages, les frappes ont fait au total 3 morts. Vinyansk se trouve au nord de la région de Zaporijjia, région annexée récemment par Moscou, mais qui n'occupe que le sud. La ville, elle, se trouve sur la ligne de front. Elle est sous autorité ukrainienne et elle est régulièrement bombardée par les troupes russes. La semaine dernière, une frappe a détruit un immeuble, tuant 10 personnes, dont 3 enfants. La frappe de ce matin s'ajoute aux 700 attaques contre des établissements de santé déjà enregistrées depuis le début du conflit en Ukraine. C'est ce qu'a indiqué lundi l'Organisation mondiale de la santé. Des centaines d'hôpitaux et d'établissements de santé ne sont ainsi plus pleinement opérationnels, a ajouté son directeur régional en Europe. Le président Zelensky accuse, lui, la Russie de meurtre et de propager la terreur.
Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Et à l'instant, le Parlement européen vote un texte qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme, État qui utilise des moyens terroristes. Voilà pour le texte adopté par le Parlement européen aujourd'hui.
RTL Coupe du Monde 2022.
Dans ce flot de nouvelles qui ne sont pas toujours bonnes, c'est vrai que le football nous plaît. Le jour d'après, pour les Bleus qui ont lancé leur mondial par une victoire 4-1 hier soir, mais qui ont perdu Lucas Hernandez, et c'est pas neutre parce que c'était le dernier arrière gauche, l'avant-dernier arrière gauche, il n'en reste plus qu'un.
Touché au croisé, Lucas Hernandez, cadre de 2018, on s'en rappelle, et forfait donc pour le reste de la compétition. Pascal le disait, Hugo Hamelin, c'est un vrai coup dur ce forfait.
Exactement, quand on l'a vu sortir grimaçant, boitant, soutenu par le médecin des Bleus dès la 10e minute, on a tout de suite su que c'était terminé pour Lucas Hernandez, remplacé par son frère d'armes, son petit frère Théo, sous les yeux de Rémi, supporter des Bleus.
Et Lucas s'est fait mal devant moi, pile devant moi. C'était un peu traumatisant, j'ai même pas pu voir le but australien, j'étais focalisé sur Lucas. Il s'est fait avoir par le contre-appel de l'Australien, et en essayant de se retourner, le genou il est parti d'un côté et lui de l'autre. Et puis Théo Hernandez est rentré et il l'a vengé, et il est tout de suite rentré dans son match alors que c'était pas facile, il était même pas échauffé, il était un peu sous le coup, je pense, de l'émotion forcément quand t'as ton frère qui te fait mal comme ça. Et taille patron quoi, il fait une passe D pour la tête de Rabiot, il nous remet dans le match avec Rabiot, franchement. Il fallait avoir du mental, perdre un joueur important, prendre un but aussitôt et se relever en mettre 4 derrière, ça fait plaisir, c'est beau.
Alors le souci maintenant pour l'équipe de France, c'est que Didier Deschamps n'a plus de latéral gauche de métier. Théo, le petit frère, il a un profil beaucoup moins défensif, beaucoup moins guerrier que Lucas, qui a été réconforté par ses coéquipiers hier soir dans sa chambre et qui devrait quitter Doha dans les heures qui viennent.
Alors c'est vrai, c'est important de le dire à ceux qui ne connaissent pas forcément le football, parce que Didier Deschamps avait la possibilité, Hugo, de rappeler un joueur. Il aurait pu prendre par exemple Lucas Digne. Il ne l'a pas fait. Donc là, il n'y a plus qu'un arrière.
À la place de Benzema, vous voulez dire ?
Ben oui, il y avait une possibilité de prendre quelqu'un. Donc imaginez que Théo Hernandez se blesse. Il y aurait une polémique qui arriverait sur Didier Deschamps. Pourquoi n'a-t-il pas pris un joueur en plus ?
Et vous connaissez Didier Deschamps, il a tout de suite sorti le parapluie en conférence de presse. Il a dit qu'il faudrait partir à 33 joueurs pour être tranquille.
Oui, mais qui jouerait tripler à gauche ? Rabiot avait joué à gauche, je crois, mais ça n'avait pas été un franc succès.
Et surtout, il a été très bon hier soir au milieu de terrain, Rabiot. Ce serait vraiment dommage de le mettre à un poste qu'il ne maîtrise pas dans une Coupe du Monde. C'est sa première Coupe du Monde.
Sinon, on va croiser les doigts. C'est un peu plus tard.
Oui, mais on va croiser les doigts parce qu'il reste 6 matchs hein, jusqu'à la finale de la Coupe du Monde, Hugo. 6 matchs. Donc, il faut que Théo Hernandez, il tienne les 6 prochains matchs. pas simple.
Oui. On va essayer de tenir les deux prochains déjà et de se qualifier.
Bon. Merci,
merci
Hugo.
Pour ce qui est des matchs du jour, le Maroc affronte la Croatie depuis 82 minutes maintenant. Toujours pas de but entre les deux équipes. Pour la suite de l'après-midi, à 14h, Allemagne-Japon. À 17h, l'Espagne sera face au Costa Rica. Et puis ce soir, l'affiche donc de la soirée, ce sera Belgique-Canada à 20h.
Les Diables.
Rouge.
Les Diables.
Pour finir maintenant, une petite mise au point. Pascal, c'est très sérieux. C'est de la justice. Oui. Non, un salarié ne peut pas être licencié au seul motif qu'il n'est pas assez fun, pas assez drôle ou même pas assez bon vivant, Cindy Hubert.
Oui, c'est l'histoire d'un homme qui travaille dans un cabinet de conseil, licencié pour avoir refusé d'adhérer aux valeurs de son entreprise et plus précisément à la valeur fun and pro. Alors qu'est-ce que c'est que cette valeur ? C'est là que ça se corse. Cela veut dire participer aux séminaires et aux pots de fin de semaine avec de très grandes quantités d'alcool, des brimades et des dérapages, écrit la Cour de cassation, des simulacres d'actes sexuels, l'obligation de partager son lit avec un autre collaborateur, l'usage de petits surnoms pour désigner les salariés ou encore l'affichage dans les bureaux de photos maquillées. Bref, tout cela relève de la liberté d'opinion et d'expression du salarié, a tranché la Cour. Rien ne l'oblige à y participer et surtout tout cela ne peut pas justifier un licenciement. L'employeur ne trouvera sans doute cela pas très fun, mais il va devoir verser des indemnités à son ancien collaborateur.
Cindy Hubert pour RTL, qui participe au pot, elle.
Et nous sommes tous fun autour de cette table.
Toujours.
Très fun.
Exactement. Avec d'ailleurs Damien Béchiot et toute l'équipe en régie.
Et vraiment, à votre ton, là, on sent que vous êtes
super fun.
Vraiment, c'est... ça respire le fun.
Je suis le seul garçon. Soyez gentil avec moi autour de cette table, quand même.
Nous ne faisons que constater.
La météo.
Oui. Ne me criez pas dessus. Allez, le temps pour aujourd'hui. On a cette perturbation pluvieuse qui se décale sur les régions de l'Est. Elle est actuellement sur les régions centrales. Donc tout l'Est sera concerné cet après-midi, à l'exception du pourtour méditerranéen où ça reste sec et même lumineux, mais avec du vent. Et sur l'ouest du pays, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies, encore des averses. Alors des averses plus marquées sur les Pyrénées, vers l'Aveyron, le Tarn, plus marquées également sur les côtes de Manche et entre la Bretagne et l'Île-de-France, on devrait avoir moins d'averses, peut-être quelques gouttes de manière très localisée. Et du vent sur l'ensemble du pays globalement. Tout ça sous des températures qui sont au-dessus des normales, de 10 à 15 au nord et de 13 à 17 au sud.
Merci Peggy.
Dans une seconde, les coupures de courant possibles cet automne, cet hiver. Est-ce que vous les craignez ? À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Pascal Praud et Céline Landreau.
Ça risque de couper, alors que RTL, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, évoque un risque de grosse tension à partir du mois de janvier et de possibles coupures. Enedis se prépare déjà à ces scénarios de délestage. Bonjour Nathan Bocard.
Bonjour.
Vous êtes reporter à RTL et vous vous êtes rendu dans un centre de contrôle Enedis, le distributeur d'électricité donc, qui sera chargé en cas de grosse tension de couper le courant par endroit. Alors d'abord, si tension il y a, à qui on coupe le courant en premier, Nathan ?
Eh bien ça, ce sera décidé par un ordinateur. En fait, Enedis reçoit un ordre de couper le courant de la part du gestionnaire RTE qui lui dit combien de puissance risque de manquer. Et ensuite, c'est un programme informatique qui va dire quelle zone on peut couper pour récupérer cette puissance. Alors selon les cas, ça peut concerner des pâtés de maison, voire des quartiers entiers, entreprises comme particuliers. À savoir, le programme fait en sorte que ça ne soit pas toujours les mêmes. Donc si jamais on vous a coupé le courant le matin, il y a très peu de chances que ça vous arrive l'après-midi ou dans les jours qui viennent. C'est pour ça qu'on parle de délestage tournant. Une exception toutefois, ce sont les clients prioritaires à qui on ne pourra jamais couper le courant.
Ben justement, qui sont les clients prioritaires ?
Eh bien, la liste est confidentielle. Ce sont les préfets qui les donnent département par département. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on y retrouve les hôpitaux, les services de défense nationale, mais aussi les prisons et les sites industriels où l'activité ne peut tout simplement pas s'arrêter. Autre cas de figure, enfin, les malades médicalisés qui ne sont pas à l'hôpital. On appelle ça des patients à haut risque vital. Eux, on peut leur couper le courant, mais on les prévient longtemps avant une potentielle coupure pour qu'ils puissent s'y préparer.
Alors, si on n'est pas prioritaire et si on n'est pas malade dans le cas que vous venez de citer, on est prévenu comment que le courant va être coupé chez nous? On le sait quelques heures avant?
On le sait la veille. Alors pour cela, il y a un site que je vous conseille de mémoriser puisqu'il risque d'être très utile cet hiver. Ça s'appelle monecowatt.fr, M-O-N-E-C-O-W-A-T-T, ou bien l'application EcoWatt. En fait, le jour avant un délestage, ce site indiquera les départements qui sont concernés. Et la veille au soir, vers 19h à peu près, vous pouvez rentrer votre adresse sur ce site et on vous dira si vous risquez une coupure de courant.
Est-ce qu'on sait en amont combien de temps ça va durer?
Oui, ce sera systématiquement 2 heures, quelques minutes de plus ou de moins. Alors, quelques petits conseils, ça doit vous arriver. Déjà, évidemment, ne prenez pas l'ascenseur avant une coupure pour ne pas rester coincé 2 heures. Évitez également d'ouvrir votre frigo.
Si vraiment on veut nouer une conversation avec quelqu'un à ce moment-là.
Si vous voulez rester dans un ascenseur, c'est le moment de l'appeler. Sinon, n'y allez pas. Sinon, évitez également d'ouvrir votre frigo toutes les 5 minutes, puisque 2 heures, ça ne suffit pas à briser la chaîne du froid, mais il faut que le frigo puisse garder la fraîcheur emmagasinée avant. Donc, n'ouvrez pas trop votre frigo. Et puis également, si vous avez des volets électriques sur les fenêtres ou les portes, évitez de les laisser fermer, sinon vous serez bloqué.
Dernière question, Nathan, à quoi il sert ce délestage exactement?
Ça sert tout simplement à éviter le blackout, donc une coupure généralisée où tout le monde est dans le noir. Mais dans les faits, il y a d'autres choses à faire avant. D'abord, limiter sa consommation. Et puis, si jamais on atteint des pics de tension, Enedis va baisser un peu la tension au niveau local ou national de 5%. Je vous rassure, ça ne change pas grand-chose. Un peu moins d'efficacité dans le chargement de votre téléphone, par exemple.
Dans un instant, laissez-vous tenter midi. On va parler du film Saint-Omer. Stéphane Boutsock est déjà dans ce studio. Est-ce que les films de Noël sont déjà là?
Non, pas encore, monsieur.
Ah oui, bah j'attends.
Ça va venir, hein. Ça arrive vite.
À tout de suite.
RTL Midi. Céline Landreau et Pascal Pro. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi. On parle donc cinéma.
Et d'un film en particulier, Saint-Omer d'Alice Diop, Saint-Omer tiré d'une histoire d'infanticide. C'était il y a 9 ans, la petite Adélaïde, 15 mois, mourait noyée par sa mère Fabienne Cabou à la marée montante à Berck-sur-Mer. Alors Saint-Omer rejoue le procès de cette mère. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste justice à RTL et bonjour Stéphane Boutsock,
bonjour à tous.
Spécialiste cinéma qui vient nous voir tous les mercredis. Vous avez vu le film, hein, tous les deux. D'abord, Cindy, on dit que c'est tiré de cette histoire vraie, de ce procès que vous aviez suivi, vous. Est-ce que le film est fidèle à ce qui s'est passé?
Alors, j'avoue que j'ai eu un peu peur en commençant à le regarder, parce que ça fait partie vraiment des procès qui m'ont marqué en 10 ans. C'est un des procès qui m'a le plus marqué dans ces 10 ans. Et ça rend bien compte de... Quand on a passé une semaine à Saint-Omer à parler de cette affaire, à vivre avec cette affaire, à dormir avec cette affaire. Quand on est dans un procès d'assises, on est vraiment dans une bulle, dans un huis clos quasiment. Et ce film, il en rend bien compte, y compris d'ailleurs dans des temps un peu creux, qui sont pas forcément très médiatiques, le moment où on parle de la personnalité de l'accusé, où il y a les proches de l'accusé qui viennent témoigner, et ça il en rend bien compte. Après, parce que le film peut pas rendre compte de tout, et c'est bien normal. Moi je me souviens qu'une des scènes qui m'a marquée dans ce procès, c'est un moment où on a diffusé la vidéo de cette petite fille qui avait été tournée par Fabienne Cabou. Et je me souviens très bien des joues rebondies de cette petite fille, de son sourire et de Fabienne Cabou qui murmurait « Ada, Ada » tout doucement. Et on sentait bien que cette femme, elle avait aimé ce bébé pendant 15 mois. Et puis surtout, je me souviens du regard de l'accusé dans le box qui regardait cette vidéo, ce regard froid, insaisissable et ça, ça n'existe pas dans le film.
Mais alors, qu'est-ce qui la rend si particulière, cette affaire, qui la rend si cinématographique, justement?
Alors, pour moi, c'est assez évident. C'est le point de départ de cette affaire, en fait. C'est le point de départ de ce fait divers qu'on peut quasiment résumer en une phrase. C'est Fabienne Cabou a déposé son enfant à la mer. C'est terrible, c'est affreux. Et en même temps, c'est un peu poétique. C'est terrible de le dire, mais c'est comme ça. Et puis, l'autre raison, c'est la personnalité de Fabienne Cabou. On est sur une criminelle. Quelqu'un qui a aimé encore une fois son enfant pendant 15 mois et puis qui a décidé de le tuer. On est sur une femme extrêmement érudite qui parlait très bien. Et puis, on a aussi une femme qui était persuadée d'avoir été victime de sorcellerie, de marabouts, de forces maléfiques. Et aussi une femme qui est torturée par ses démons intérieurs. Et c'est peut-être ça qui manque dans le film, à mon sens, qui était très important dans le procès. C'est ce côté maladie mentale. On est sur quelqu'un qui était malade, qui entendait des bruits dans son cerveau en permanence, comme s'il y avait des travaux à côté de chez elle, alors qu'évidemment, il n'y en avait pas. Et puis...
Elle est en prison aujourd'hui?
Aujourd'hui, elle est toujours
en prison. Elle est toujours en prison. Elle avait été condamnée.
Elle a été condamnée à 15 ans en appel. Mmh. Et j'oublierai jamais cette dernière phrase qu'elle avait dite à son avocate au moment du verdict, où elle dit « On ne saura toujours pas qui a tué ma fille ». Voilà, donc c'est vraiment ce côté maladie mentale, moi, qui me reste.
Stéphane Boutsock, au-delà de la véracité ou pas, est-ce que Saint-Omer est tout simplement un bon film ?
Alors, à mon sens, oui. Après, c'est aussi une, presque une expérience de cinéma par moment, parce que c'était un premier film d'Alice Diop. Il y a très longs plans séquences, c'est-à-dire des scènes qui ne sont pas coupées, qui sont jouées in extenso, notamment la première prise de parole de l'accusé, qui ne porte pas le même nom d'ailleurs. C'est aussi pour ça que c'est une fiction. C'était pas le même nom, il y a des personnages inventés, on ne connaît pas le verdict, par exemple, dans le film. Elle arrête le film avant parce que pour elle, pour Alice Diop, la réalisatrice, ça parle aussi d'autre chose, ça parle de notre rapport à la maternité, de ce que c'est qu'être une femme d'origine africaine. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce film. Il y a aussi, en effet, cet aspect maraboutage, sorcellerie qui plane. Mais oui, moi, je trouve que c'est une démonstration assez intéressante de ce qu'est aussi un film de procès, parce que c'est un genre en soi, quand vous y ajoutez une dose de thriller pratiquement par moment, une dose de mystère, une dose d'intime. Et je trouve que oui, que l'expérience est quand même assez aboutie. Mais ça peut dérouter.
Avec une question quand même, à un mois de Noël, est-ce que le public va avoir envie d'aller voir un film sur un infanticide aussi sombre que cela? C'est vrai que faut les producteurs de cinéma, j'imagine qu'il faut un certain courage pour sortir ce film à ce moment-là de l'année.
Alors, courage, oui, et puis, mais il y a un élément qu'il faut intégrer, c'est qu'on entre dans la saison des prix. Or, Saint-Omer est le représentant de la France pour l'Oscar du meilleur film étranger. On saura en tout début d'année s'il fait partie des 5 finalistes. Il y a toute une série de prix internationaux qui vont commencer à être décernés. Il faut que le film sorte avant le mois de décembre pour concourir au César aussi. Donc, c'est pas anodin. Et en même temps, il ne peut pas y avoir non plus toutes les semaines la gentille vie de Michou, le petit renne. Vous voyez ce que je veux dire ?
J'entends bien, mais je me pose la question, je vous écoute tous les deux, et je me dis, est-ce que le public va avoir envie ?
Ça a bien démarré à Paris, par exemple. Alors, c'est peut-être un film qui fera plus son score en région parisienne qu'en province. Ça a pas mal démarré ce matin.
Merci beaucoup à tous les deux. Et si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle qu'Alice Diop, la réalisatrice de Saint-Omer, était l'invitée de Julien Cellier hier dans RTL Soir. Interview à réécouter, évidemment, en intégralité sur notre site rtl.fr.
Merci beaucoup à tous les deux. Les films de Noël, c'est quand alors, Stéphane?
Mais alors, c'est vrai qu'il y a pas, il y a plus, c'est plutôt la télé, hein, Pascal, les films de Noël. Vous en avez un tous les jours.
Il n'y a pas un Disney qui sort cette année?
Il y a Avatar enfant, qui sera un joli Avatar. Film de Noël.
Il n'y a pas un dessin animé?
Non, il n'y a pas de dessin.
Il y a pas sur Disney Plus.
De la jungle. Oui, vous offrirez les DVD, les VHS.
VHS, c'est plutôt c'est ça. Ouais.
Christian Olivier va arriver dans une seconde parce que tous les deux, nous nous affrontons tous les jours. Je ne suis pas sûr qu'on s'affronte aujourd'hui sur Olivier Giroud, mais en tout cas, on va parler du cas Giroud et lui rendre hommage. 36 ans, Giroud. A tout de suite.
RTL Midi.